إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture et l'étude du livre intitulé Manhaj Sarikin de l'imam Sindi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au passage où l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné les impuretés et la façon de les nettoyer. On a vu dans un cours précédent que la purification fait partie des conditions de la prière et qu'il incombe aux musulmans de se purifier d'al-hadath, qui désigne l'état d'impureté, majeur ou mineur, et ce en faisant respectivement le lavage ou les ablutions. Mais aussi, il doit se purifier d'al-najasa, l'impureté. C'est-à-dire qu'aucune matière impure ne doit se trouver sur trois choses lorsque tu pries. Et ces trois choses sont ton corps, tes vêtements et le lieu sur lequel tu pries. L'auteur, rahimahullah ta'ala, va donc nous expliquer comment nous purifier de cela et quelles sont les impuretés desquelles nous devons nous purifier. Il dit, rahimahullah, « وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ عَلَى الْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ أَوِ الْبُقْعَ أَوْ غَيْرِهَا أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا عَنِ الْمَحَلِ » Il dit, « Il est suffisant pour nettoyer toutes les impuretés, qu'elles soient sur le corps, sur les vêtements, ou sur un lieu, sur un sol ou autre, qu'elles disparaissent de l'endroit. » C'est-à-dire que la substance de l'impureté disparaissent de cet endroit, que ce soit sur le corps, sur un tissu d'un vêtement, ou sur le sol sur lequel on va prier ou autre. La preuve à ce sujet, c'est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumullahu ta'ala, d'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte qu'un jour, un bédouin est entré dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a uriné dans un coin de la mosquée. Alors qu'il était en train d'uriner, les gens se sont alors mis à le blâmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de le laisser, de ne pas le blâmer pendant qu'il était en train d'uriner. Puis lorsqu'il a fini, il a ordonné d'aller chercher un seau d'eau et de le verser dans cet endroit. On voit donc à travers ce hadith qu'à partir du moment où l'impureté disparaît, l'endroit devient pur et qu'il n'est pas conditionné de faire un certain nombre de lavages. Mais en ce qui concerne le sol ici, la terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement ordonné de verser de l'eau dessus. Et la purification de l'impureté, elle n'a pas forcément lieu avec de l'eau, bien que ceci soit la base. Mais dans certains cas, elle peut avoir lieu autrement. Par exemple, si la personne marche sur une impureté et qu'elle a de l'impureté sous la semelle de ses chaussures, alors il lui suffit pour les purifier de marcher sur la terre pure. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par Abu Dawud est authentifié par l'Albani, rahimahumallah ta'ala, si l'un d'entre vous marche avec ses chaussures sur une impureté, alors la terre la purifie. C'est-à-dire que les pas que tu vas faire ensuite sur une terre pure vont ainsi purifier tes chaussures. Et ce n'est donc pas une condition de les nettoyer avec de l'eau. Ensuite, il a dit, rahimahallah ta'ala, لِأَنَّ الشَّارِعْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ غَسْلِ النَّجَاسَاتِ عَدَدًا. Et ce, car le législateur, il n'a pas exigé, concernant le lavage de toutes les impuretés, un nombre précis. Donc il revient sur le fait qu'il suffit que l'impureté disparaisse. Car il n'est pas venu dans la législation, ni dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une condition de nettoyer l'endroit touché par l'impureté 2, 3, 4 ou 5 fois ou plus encore. Mais on doit nettoyer jusqu'à ce que l'impureté disparaisse. Il dit, rahimahullah, illa fi najasatil kalbi, à l'exception de l'impureté du chien. Fashtarata fiha sab'a ghasalat ihdaha bit turab, kama fil hadith al-muttafaq alayhi. Il dit, il a exigé de faire 7 lavages, dont un avec de la terre, comme cela est venu dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que lorsque le chien lave dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois, et que la première fois soit avec de la terre. Et dans une autre version, dont une fois avec de la terre. Donc si un chien lave dans un récipient, il boit de l'eau dans un récipient qui est entreposé, ou que sa salive se pose sur un vêtement, sur la peau d'une personne, qu'il vient le sentir ou le lécher, et qu'il ressent l'humidité de sa bave. Alors dans ce cas-là, il est nécessaire de laver ce vêtement ou cette partie du corps 7 fois, dont une avec de la terre. Et les gens de science ont mentionné que le savon pouvait remplacer la terre, notamment dans cette situation. C'est-à-dire que la personne doit laver, par exemple, sa main 7 fois, dont une avec du savon afin de se purifier. Ou alors avec de la terre. Si tu es dehors, tu prends de la terre, tu te laves les mains avec la terre, puis ensuite tu laves 6 fois avec de l'eau. Ensuite, rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner les choses qui sont impures. Et avant de commencer à lire les 6 choses qu'il a mentionnées, il est important de se rappeler de la règle générale que nous avons vue dans un cours précédent, qui est que la base en ce qui concerne toutes les choses est la pureté, sauf si une preuve authentique et explicite démontre qu'une chose est impure. Donc s'il n'y a pas de preuve authentique et explicite nous démontrant qu'une chose est impure, nous dirons alors que la base est la pureté. Et ceci est important à comprendre, notamment en ce qui concerne les questions qui sont sujettes à divergence entre les savants. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, wal-ashiyahun najisa, et les choses impures sont, il va en mentionner 6. Premièrement, bawlul adami, l'urine de l'être humain, wa adhiratuh, ainsi que ses excréments. La preuve de l'impureté de l'urine de l'être humain, c'est ce qu'on a vu dans le hadith de Anas, radiyallahu ta'ala anhu, que l'on vient de mentionner, concernant ce bédouin qui a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de nettoyer cet endroit en versant dessus un seau d'eau. Également, il y a le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de 2 tombes et a dit: ces deux-là se font certes châtier, ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Puis il a dit: quant à l'un d'entre eux, il ne se purifiait pas de son urine. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Ceci nous prouve donc que le fait de ne pas se purifier de l'urine fait partie des grands péchés. Car l'urine est une impureté, et ce, comme nous le démontrent ces textes, et ce à l'unanimité des gens de science. Concernant les excréments, les gens de science sont également unanimes à ce sujet. Comme l'a mentionné Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il y a unanimité concernant l'impureté des excréments. Et il n'y a pas de différence entre les excréments de l'enfant ou de l'adulte, et ce à l'unanimité. Ensuite, il dit rahimahullah ta'ala, wad-dam, et le sang. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit donc que le sang est une impureté. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Et certains ont même rapporter l'unanimité à ce sujet. Ils se sont basés pour cela sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 173 de sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Certes, il vous a interdit la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc et ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit ces 4 choses. Ils ont donc dit: cette interdiction implique nécessairement que ces choses soient impures. Également, parmi les preuves qu'ils ont mentionnées, il y a le hadith rapporté par Asma, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhumah. Elle a dit qu'une femme a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du sang des menstrues qui tachait le vêtement. Comment devait-elle faire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: si le vêtement de l'une d'entre vous est taché par le sang des menstrues, alors qu'elle le frotte à sec, puis le nettoie avec ses doigts avec de l'eau, puis qu'elle le lave. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Donc, on voit à travers ce hadith que le sang des menstrues est une impureté. Et ils en ont déduit que les autres sangs sont également impurs. Ceci sont donc certaines preuves sur lesquels ils se sont basés pour stipuler que le sang est une impureté. Toutefois, il est important de savoir que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette question n'est pas une question qui fait unanimité. Et certains savants considèrent que le sang n'est pas impur. Et ce, car les preuves mentionnées ne sont pas explicites. En effet, le verset, il mentionne l'interdiction des quatre choses mentionnées, dont le sang. Mais il ne mentionne pas que ces choses sont impures. Et la règle stipulant que l'interdiction implique nécessairement l'impureté n'est pas une règle établie. En effet, il se peut qu'une chose soit interdite, mais qu'elle ne soit pas impure. Et c'est l'inverse qui est vrai. Ce qui est impur est forcément interdit à la consommation, mais ce qui est interdit n'est pas forcément impur. Et concernant le hadith, ils ont mentionné qu'il concerne spécifiquement le sang des menstrués, et qu'on ne peut donc pas l'appliquer sur les autres sangs. D'autant plus qu'il y a des preuves démontrant que le sang n'est pas impur. En effet, il est rapporté de nombre de compagnons qu'ils priaient lors des batailles avec du sang qui coulait de leurs blessures. En effet, d'après Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la bataille de Dhat al-Riqa', un homme a été atteint par une flèche et son sang s'est mis à couler. Il continua de prier, s'inclina et se prosterna. Le Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a dit: selon le sens de sa parole, il apparaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé, car il n'y a pas dit que sa prière était invalide. En effet, si le sang était une impureté, il aurait dû arrêter sa prière afin de se nettoyer. Mais au contraire, il a continué de prier. Et ceci est l'avis qu'a soutenu, parminles savants contemporains, l'éminent cheikh, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit, toujours concernant le sang, illa annahu yu'fa anid dam al-yasir. Il dit donc que le sang est une impureté, sauf que le sang en petite quantité, alors ceci est excusé. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de cela. Par exemple, si une personne a une légère coupure et qu'il y a un peu de sang qui coule, alors ceci est excusé et il n'est pas nécessaire de le nettoyer. Et l'unanimité des gens de science est rapportée à ce sujet. Donc ceux qui ont dit que le sang est une impureté, ils visent par cela le sang en grande quantité. Quant au sang en petite quantité, alors il n'y a pas de gêne en cela. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa mithluhu ad-damu al-masfuh min al-hayawan al-ma'kul. Il dit, et comme le sang que l'on appelle al-masfuh, des animaux que l'on mange. Al-masfuh, c'est-à-dire le sang qui coule de la bête au moment du sacrifice. Le sang qui sort de son corps, celui-ci est impur. La preuve à ce sujet, au verset 145 de Sourate Al-An'am, dit: dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à un mangeur d'en manger que la bête morte, ou le sang qu'on fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure. Les gens de science ont donc dit que ce qui est visé par c'est une souillure ici, ce sont les trois choses précédemment mentionnées. La bête morte, c'est-à-dire celle qui est morte sans se faire sacrifier, le sang qu'on fait couler et la chair de porc. Ce sont des souillures. Ceci est donc la preuve que le sang versé au moment du sacrifice est une impureté. Et le Shir, rahimahullah ta'ala, nous donne une précision très importante ici. Il dit: دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. Il dit: en dehors de celui qui reste dans la viande et dans les veines, car celui-ci est pur. En effet, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne précisément le sang qu'on fait couler, et non pas le sang qui reste dans la bête. Ceci nous prouve que le sang qui reste dans la bête et qui se trouve dans la viande, il est pur et licite à la consommation. Et il est d'ailleurs rapporté de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qu'au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il cuisinait cette viande de laquelle pouvait sortir du sang, et il la mangeait, il ne la réprouvait pas. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. Dit: parmi les impuretés, il y a l'urine et les excréments de tout animal interdit à la consommation. Par exemple, l'âne, le chien, le chat, et ainsi de suite, parmi les animaux que nous ne pourrons pas consommer. Leur urine et leurs excréments sont des impuretés. La preuve à ce sujet est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il partit faire ses besoins, lui ordonna de lui ramener trois pierres. Il dit: j'ai alors trouvé deux pierres et j'en cherchais une troisième, mais je n'en ai pas trouvé. J'ai alors pris un crottin et je lui ai ramené. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors pris les deux pierres et a jeté le crottin et il a dit: ceci est une impureté. C'est donc une preuve explicite démontrant l'impureté des excréments des animaux qui ne sont pas consommés. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ. Et les bêtes féroces sont toutes impures. Ce qui est visé par les bêtes féroces, ce sont les lions, les tigres, les loups, les renards et autres parmi les bêtes semblables. Le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'elles sont impures. Et les gens de science ont divergé à ce sujet. Le shir al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ainsi que les savants de l'Ajna da'ima, du comité permanent de la délivrance de la fatwa du royaume d'Arabie Saoudite, ont mentionné que les bêtes féroces sont pures. Et la raison de cela est qu'il n'y a aucune preuve authentique et explicite démontrant qu'elles sont impures. Donc, la base est que tous les animaux sont purs, tant qu'ils sont vivants, à l'exception du porc, qui lui est une impureté, et comme on l'a vu en ce qui concerne le chien, sa bave est impure. Mais une fois qu'ils sont morts, alors ils sont impurs. En effet, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite « وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتِ » Et il en est de même pour les bêtes mortes, c'est-à-dire qui sont mortes sans sacrifice, en ce qui concerne les bêtes que l'on peut manger. Et en ce qui concerne ce qu'elles ne mangent pas, alors elles sont impures. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit que tous les cadavres, les dépouilles, sont impures. Et il a donné quatre exceptions. Il a dit « illa maitat al-adami » à l'exception du cadavre, de la dépouille, de l'être humain. Et ce, car l'être humain, il reste pur, vivant ou mort. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, va mentionner un hadith à ce sujet. Ensuite, il dit « wama la nafsa lahu sa'ila » et ce qui n'a pas de sang qui coule. Comme, par exemple, les insectes, comme les fourmis, les mouches, etc. Ils restent purs, même lorsqu'ils sont morts. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsqu'une mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, alors qu'il la trempe dedans, puis qu'il la retire, car dans une de ses ailes, il y a une maladie, et dans l'autre, il y a sa guérison. » C'est-à-dire le remède à cette maladie. Les gens de science ont donc dit, si la mouche était impure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas ordonné de la tremper dans la boisson. Ceci est donc une preuve que les insectes, qui n'ont pas de sang qui coule, restent purs même lorsqu'ils sont morts. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, wassamak, ainsi que le poisson, waljarad, les sauterelles, li'annaha tahira, car elles sont pures. C'est-à-dire la dépouille de l'être humain, ainsi que les insectes qui n'ont pas de sang qui coule, le poisson et les sauterelles, ils restent purs même lorsqu'ils sont morts. Et concernant le poisson et les sauterelles, le cheikh, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner la preuve à ce sujet. Il a dit, rahimahullah ta'ala, « قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم » Vous aurez été interdit la bête morte et le sang. Il a akhiriha, jusqu'à la fin du verset, c'est-à-dire le verset 3 de Surat Al-Ma'ida. Ensuite, il a dit « وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسْ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا » Le croyant ne devient pas impur, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Donc, ceci est une preuve que, lorsque l'être humain meurt, il reste pur. Il ne devient pas impur. « وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانَ وَدَمَانَ » Il nous a été rendu licite deux bêtes mortes et deux sangs. Amma al-maytatan, quant aux deux bêtes mortes, falhout wal-jarad, ce sont le poisson et les sauterelles. C'est-à-dire qu'ils sont licites même si on les trouve morts. Si tu trouves un poisson qui est déjà mort, il est licite. Si tu trouves une sauterelle qui est morte, elle est licite également à la consommation. Et le fait qu'ils soient licites à la consommation nous prouve qu'ils sont purs. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licites les bonnes choses. Quant aux choses impures, elles sont forcément, comme on a dit, illicites à la consommation. Il dit « Amma daman, فالكبد والطحال. Quant aux deux sens, ce sont le foie et la rate. رواه أحمد وابن ماجه. Et ce hadith est rapporté par Ahmed et Ibn Majah, rahimahum Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner des choses que l'on pourrait penser comme étant impures, mais qui ne le sont pas. Il dit, وَأَمَّا أَرْوَاثُ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا فَهِيَ طَاهِرَةِ. Il dit, quant aux excréments, aux crottins des animaux que l'on mange, ainsi que leurs urines, alors ils sont purs. Les animaux que l'on mange, par exemple, le chameau, le mouton, la vache, et ainsi de suite. Leurs excréments et leurs urines sont purs. Ce ne sont pas des impuretés. Si tu es touché par celle-ci, tu peux prier ainsi et tu n'as pas besoin de te laver. La preuve à ce sujet, c'est notamment le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de boire de l'urine et du lait de chamelle. Donc le fait qu'il a ordonné de la boire, ceci nous prouve que c'est une chose pure, car on ne consomme que des bonnes choses qui sont pures et licites. Quant aux choses impures, elles ne sont pas licites à la consommation. Et il y a en cela un remède, comme cela est connu. Et dans un autre hadith, rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, également d'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, il nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aimait prier là où il se trouvait lorsque venait la prière. Et il priait dans les enclos des moutons. Et dans les enclos des moutons, il est inévitable que s'y trouvent de leurs urines et de leurs excréments. Malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait dans cet endroit. Ceci nous prouve que c'est un endroit qui est pur. Et donc, que l'urine et les excréments des animaux que nous mangeons, que nous consommons, ils ne sont pas impurs, mais ils sont purs. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, وَمَنِيُّ الْأَدَمِي طَاهِرٌ. Et le liquide séminal de l'homme est pur. En effet, les gens de science ont mentionné que le liquide séminal est la base de la création de l'homme. Et parmi ces hommes, les prophètes, les messagers, alayhimus salatu wassalam, et les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est impensable qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait créés à partir d'une impureté. De plus, il n'y a aucune preuve explicite démontrant l'impureté du liquide séminal. Donc, la base est la pureté comme on l'a mentionné. Mais bien qu'il soit pur, le mieux est de le nettoyer et de ne pas le laisser si le vêtement en est atteint. En effet, le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit « كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lavait lorsqu'il était humide et le frottait lorsqu'il était sec. Le laver lorsqu'il était humide, comme cela nous est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lavait le meni, lavait le liquide séminal, puis il sortait à la prière dans ce vêtement. Et concernant le fait de le frotter lorsqu'il est sec, Aisha radiyallahu ta'ala anha nous rapporte également qu'elle a dit à ce sujet « Je frottais le meni, le liquide séminal séché, avec mes ongles sur les vêtements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc ceci également nous prouve que ce n'est pas une impureté. Car si c'était une impureté, il n'aurait pas été suffisant de le frotter. Mais il aurait été obligatoire de le laver. Quant au liquide préséminal, appelé al-madhi, celui-ci c'est une impureté. Mais son impureté est légère. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition de laver le vêtement qui a été touché par celui-ci. Mais il suffit de l'asperger avec de l'eau. La différence entre le lavage et le fait de l'asperger, c'est que pour le lavage, tu vas mettre l'eau, tu vas frotter et tu vas essorer. Quant au fait d'asperger, tu vas simplement faire la première étape, mettre de l'eau. Et ceci est suffisant, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition de frotter et d'essorer. La preuve que le liquide préséminal, le madi, est une impureté, c'est le fait qu'un compagnon, radiyallahu ta'ala anhum, a interrogé à ce sujet, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de laver ses parties intimes entièrement et de faire ses ablutions. Ceci nous prouve donc que ceci n'est une impureté et également que ceci annule les ablutions, et sur cela, on y reviendra au moment venu, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. Il dit quant à l'urine du jeune garçon, du bébé garçon, qui ne mange pas encore de nourriture, qui ne la désire pas, alors il suffit de l'asperger d'eau. Donc comme pour le Mahdi, c'est une impureté qui est plus légère que les autres. Ce n'est pas une condition de le laver, c'est-à-dire de frotter et d'essorer. Mais il suffit simplement de verser de l'eau dessus. La preuve à ce sujet est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Il dit كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: on lave l'urine du nourrisson lorsque c'est une fille et on l'asperge d'eau si c'est un garçon. On voit donc que le prophète صلى الله عليه وسلم a ici fait une distinction entre l'urine du nourrisson si c'est un garçon ou si c'est une fille. Si c'est une fille, alors on doit nécessairement le laver. Laver l'endroit qui a été touché par l'urine. Et si c'est un garçon, alors il suffit d'asperger cet endroit d'eau. Cet endroit ou ce vêtement, ou autre chose que cela. Les gens de science ont mentionné parmi les sagesses de cela que ceci est une facilité. Et ce car, l'urine du garçon, elle se répand, contrairement à celle de la fille, qui n'atteint qu'un seul et même endroit. Enfin, le shir, rahimahullah ta'ala, a dit: وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ طَهُرَ الْمَحَلُّ وَلَمْ يَضُرْ بَقَاءُ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ. Il dit: une fois que la matière, la substance de l'impureté a disparu, alors l'endroit est pur, et cela ne nuit pas qu'il en reste sa couleur ou son odeur. Il dit لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِخَوْلَ فِي دَمِ الْحَيْدِ يَكْفِيكِ الْمَا وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khawla, au sujet du sang des menstrues, il te suffit de le laver avec de l'eau et ce qu'il reste comme trace ne te nuit pas. C'est-à-dire que si tu as par exemple un tissu qui a été touché par une impureté, comme de l'urine par exemple, et que tu le nettoies, tu le laves, tu le frottes, tu l'essores, et qu'après le lavage, il reste sur celui-ci une tache, alors ce tissu est pur. Cela ne nuit en rien qu'il reste la couleur de l'impureté, car la matière de l'impureté a disparu. Également, il dit, même s'il reste son odeur, il se peut que si une personne touche une impureté, même après s'être lavé les mains avec du savon et de l'eau et s'être purifié, il persiste quelque temps l'odeur de l'impureté. Le Cheikh rahimahullah ta'ala te dit, ceci ne te nuit en rien. À partir du moment où l'impureté, la matière, a disparu, même s'il en reste une trace, comme sa couleur ou son odeur, alors ceci ne nuit en rien et tu t'es purifié. On a donc terminé avec ce passage et on verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, le chapitre concernant la description des ablutions. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.